Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous sommes dans le catéchisme, toujours à parler du Christ, de ce que les premiers siècles de l'Église ont essayé de dire pour... qu'est-ce qu'on peut dire sur le Christ ? On s'appuie sur les Écritures, mais après, il faut réussir à dire ce qu'est le contenu de notre foi. Et donc, à partir de là, pourquoi ce Christ que l'on confesse est notre salut. Et nous avons parlé du Concile de Chalcédoine lors de nos tout derniers entretiens. Peut-être serait-il bon d'aller regarder un peu plus en détail les conséquences du Concile de Chalcédoine. Et une de ces conséquences touche à la volonté ou les volontés en Jésus-Christ. Et cela a posé un certain nombre de questions, de graves questions d'ailleurs, dans les premiers siècles de l'Église qui ont conduit le Concile de Chalcédoine à trancher les choses. Et donc là, dans le catéchisme, ça nous porte au numéro 475. L'Église a confessé au 6e Concile œcuménique, nous en sommes au 6e, que le Christ possède deux volontés et deux opérations naturelles, divines et humaines, non pas opposées, mais coopérantes, de sorte que le Verbe fait chair a voulu humainement, dans l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. Alors regardons un peu plus dans le détail ce que c'est cette volonté ou ces volontés.
Oui, alors la difficulté était que l'Empire byzantin s'était divisé, comme nous l'avons vu après Chalcédoine. Deux grandes parts de l'Empire byzantin, côté Syrie et côté Égypte, étaient devenues monophysites, en laissant en quelque sorte penser que la nature humaine était comme absorbée par la divinité de notre Seigneur Jésus. Et puis, au-delà du Limès, au-delà de la frontière, il y avait les Arméniens aussi qui, pour bien se distinguer des Byzantins, avaient pris cette option. Donc, trois gros blocs de chrétienté avaient choisi le monophysisme. Et les empereurs byzantins, quand ils ont reconquis un peu sur l'Arménie, ou quand ils ont voulu unifier les choses, ont essayé de trouver des consensus en trouvant des formules nouvelles qui permettraient aux monophysites de se réconcilier avec Constantinople et ainsi de refaire l'unité religieuse et nationale de l'ensemble de l'Empire byzantin. C'est à ce moment-là qu'on a inventé la théorie du mono-énergisme ou du monothélisme, qui signifie une seule énergie ou une seule volonté. Le problème de ces deux expressions, c'est qu'elles étaient ambiguës. Et on ne savait pas si c'était le résultat de ces énergies ou le résultat de ces volontés que l'on considérait, ou si l'on observait les natures d'où procédaient ces volontés et ces énergies. Et du coup, les disputes tournaient autour de ces dits thélismes ou de ce monothélisme, et on ne voyait plus très clair parce qu'on s'éloignait dans le fond de la simplicité de Chalcédoine. Une personne en deux natures, une personne divine qui bien sûr est égale avec sa nature divine, mais qui assume en même temps une nature humaine complètement. Et en assumant une nature humaine complète, eh bien, il y a nécessairement une volonté humaine qui est distincte de la volonté divine partagée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces deux volontés, celle divine et celle humaine, s'accordent pour un même but. Et on peut dire que donc en Jésus, il y avait une volonté voulue et de la Trinité et de l'humanité de Jésus par le biais du Verbe incarné, deux volontés, la même volonté voulue, mais produite par deux volontés voulantes, celle trinitaire, dans le dessein d'amour bienveillant du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour sauver l'humanité, une volonté voulante divine et une volonté voulante humaine qui, bien sûr, s'ajustait avec cette volonté divine, parce que la volonté humaine, évidemment, est limitée par la nature humaine, alors que la volonté divine, elle, est marquée par la toute-puissance, par tous les attributs divins de la divinité. Et donc, on est en deux domaines différents, mais il y a cet accord qui fait que, finalement, la volonté humaine du Christ suit la volonté divine, comme dit très bien le catéchisme après le passage que tu as lu, sans être en résistance ni en opposition vis-à-vis d'elle, mais bien plutôt en étant subordonné à cette volonté toute puissante. Donc c'est exactement ça qui a été très bien exprimé ici dans les conciles de Constantinople III en 681, qui a suivi dans le fond la théologie de Maxime le Confesseur et du pape Martin. Les deux ont beaucoup pâti, comme vous le savez, parce que les empereurs voulaient, avec force et détermination, imposer cette autre façon de faire, de penser, pour essayer de réunir les monophysites, qui étaient assez favorables à cette vision du monothélisme ou du monoénergisme, parce que dans le fond, ils pouvaient très bien y glisser leur théologie monophysite. En négligeant la partie humaine de notre Seigneur. Mais Saint Maxime le Confesseur ainsi que le pape Martin ont bien résisté, ont bien vu la manœuvre qui essayait de noyer dans le fond la volonté humaine dans la volonté divine à tel point qu'elle n'apparaissait plus. Or, Jésus nous montre à l'agonie, au moment de Gethsémani, qu'il a vraiment une volonté humaine qui a des difficultés à rentrer dans la volonté divine. Jésus le dit dans sa prière, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne, non pas ma volonté humaine, mais la tienne, celle que nous partageons avec le Saint-Esprit et toi, Père. » Donc, du point de vue de sa divinité commune entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a bien cette dualité que Jésus affirme au moment de Gethsémani, et il ne faut pas négliger aucun élément de l'Écriture, puisque toute l'Écriture nous est donnée pour illuminer cette révélation. Et si je me permets de sauter un passage de l'Écriture, à ce moment-là, évidemment, j'annule la vérité de la révélation. La révélation nous montre bien cette tension qui a existé entre ce que Maxime appelle la volonté naturelle que Jésus partage avec tous les hommes qui voulaient ne pas mourir, évidemment. Ça fait partie de notre voluntas ut natura, comme on l'appelle, qui vient du fond de notre être. Nous ne désirons pas lâcher la vie. Mais du point de vue de cette volonté humaine supérieure, il voulait rejoindre sa volonté divine qui lui montrait le dessein d'amour bienveillant qui était la passion et la croix devant lui. Et il a décidé de l'accepter. Et donc, finalement, en disant cette formule, non pas ma volonté, sous-entendu ma volonté humaine, mais la tienne, celle que nous partageons les trois personnes de la Trinité, il a accepté que cette volonté ut natura qui lui venait du fond de sa nature humaine, bien, s'incline devant la volonté humaine supérieure qu'il avait en lui, qui lui permettait de prendre des décisions et d'aller avec courage vers sa passion. Comme dit l'évangile de Saint-Luc, à un moment, en montant à Jérusalem, il affermit son visage. Et cet affermissement montre bien une décision volontaire, alors que peut-être s'il avait écouté seulement les soubresauts de son corps, de sa vie interne, il aurait peut-être transigé, reculé, attendu, tergiversé, comme on dit. Et nous savons bien, nous-mêmes, quand nous avons des difficultés à prendre des décisions, nous aimons bien tergiverser. parce que, dans le fond, on évite la problématique. Donc, on va faire autre chose, on s'engage dans quelque chose de différent, mais on ne prend pas le taureau par les cornes, comme on dit. Et il faut cette volonté d'âme supérieure pour que ce qui nous agit, je dirais, d'une manière un peu trop fondamentale, que, pour employer un langage un peu trivial, ce qui nous vient des tripes, et qui parfois nous détermine, mais nous avons une volonté supérieure qui peut nous engager plus loin. Tous les martyrs ont connu cette difficulté, et ils ont été heureux d'avoir la prière de Jésus. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et ça les a beaucoup aidés à franchir le cap entre cette volonté qui leur venait des tripes et ce désir d'aller jusqu'au bout par leur volonté supérieure, jusqu'à l'identification à la christoconformité dans la passion et la mort de Jésus.
Je fais un prolongement spirituel que tu as déjà commencé d'ailleurs dans ce que tu viens de faire là, c'est que finalement, quand on parle, quand on parle faire la volonté de Dieu, en fait, c'est réussir à entrer dans cette volonté supérieure, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu soit tellement de nous est tellement investi, je vais le dire comme ça. D'abord, c'est là que nous trouvons notre pleine liberté, parce que c'est l'esprit qui agit en nous à ce moment-là. Mais c'est entrer dans cette prière du Christ est important. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pas le refus de notre volonté, mais c'est d'exaucer notre volonté à ce que Dieu va vouloir en nous.
Et tu dis très bien que c'est le maximum de liberté, c'est une liberté libérée, comme dirait Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour votre liberté que le Christ vous a libéré. Et donc, c'est un sentiment de bonheur immense. Ce n'est pas une sorte de contrainte qui s'appuierait sur notre volonté d'une manière horrible, mais au contraire, c'est une joie immense, c'est une liesse immense de faire la volonté de Dieu, parce que nous sommes libérés au plus haut niveau de ce que notre être est et désire dans l'accomplissement de ce que l'Esprit lui suggère.
Merci, frère Édouard.